On m'a demandé de parler de la circulation océanique profonde. Alors moi je suis pas ce qu'on appelle un océanographe en fait. Je suis plutôt un paléoclimatologue. Donc je vais vous parler des circulations océaniques profondes appliquées à la paléoclimatologie. Voilà. Alors, tout d'abord, j'aimerais faire quelques petites remarques préliminaires sur la modélisation du climat. Parce que, bon, je pense qu'il y a deux mots qui posent problème, en fait. C'est modélisation et climat. Alors, bon, le premier, climat, on a l'impression que tout le monde sait ce que c'est que le climat. On en parle dans la rue, dans les journaux, etc. En fait, c'est pas si simple que ça, c'est un mot qui est relativement bien défini par les géographes. Le climat, c'est la moyenne de certaines grandeurs sur une trentaine d'années, température, précipitation, etc. Plutôt à la surface des continents d'ailleurs, sur les océans, ça s'intéresse beaucoup moins les géographes, mais en tout cas à la surface, hein, pas au fond des océans et pas au sommet de l'atmosphère. Et pourquoi 30 ans à votre avis, pourquoi 30 ans? Si, il y a des mesures de température qui remontent à un siècle ou deux, hein, je vais faire des comptes de température. Non, c'est des... Voilà, la durée d'une génération, quoi. C'est compatible avec une vie humaine. Donc c'est une définition qui est faite pour que le climat soit stable à l'échelle de la vie humaine. Donc c'est quelque chose qui est stable dans le temps pour une vie humaine. Et qui varie beaucoup dans l'espace. Alors, les climatologues s'intéressent au changement climatique. Donc, déjà, c'est une première contradiction, parce que pour les physiciens, le climat change. Les modèles n'arrivent pas forcément à faire des choses très très locales dans l'espace. Donc, on parle de changement climatique à l'échelle globale. Ça, c'est plus facile. Donc, on voit bien qu'il y a des petits problèmes sur la définition même du mot climat. Et l'origine du problème, enfin ça c'est une définition donnée par les géographes, ça ne dit absolument pas quel est le système physique qui est derrière. En particulier, pourquoi les températures atmosphériques peuvent changer, c'est pas écrit dans cette définition. Donc il n'y a pas d'objet physique. C'est pas un objet physique, le climat. C'est pas défini comme un objet physique. Donc après, il faut le trouver. Qu'est-ce qui fait que les températures peuvent changer? C'est peut-être une variation d'insolation, de CO2, l'émission de plaques de glace, de la circulation océanique profonde, mais c'est pas dans la définition du terme climat. Je pense que ça mérite d'être souligné parce que c'est comme ça. On est confronté à un mot qui n'est pas défini d'un point de vue physique. Donc, première question, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre derrière? Alors, ce qu'il faut mettre derrière, ça va dépendre beaucoup des échelles de temps auxquelles on s'intéresse. Si on s'intéresse à des échelles de temps très très courtes, on va pouvoir se contenter de ce qui se passe dans l'atmosphère, donc c'est ce qu'on appelle la météorologie. Si on s'intéresse à des échelles de temps plus longues, là, il va falloir ajouter différentes composantes. Donc ça, c'est un diagramme très très schématique qui indique des périodes de temps. Donc de l'année au jour, 10 ans, 100 ans, 1000 ans, 10 000 ans, etc. Et puis ici, quelque chose qui ressemble à l'amplitude des changements. Donc il y a des choses bien connues, qui sont le cycle diurne, le cycle annuel, et aussi, un peu moins bien connu, périodicité de Milankovitch. Donc ça, c'est les trois variations astronomiques. auxquelles la planète est confrontée, donc la rotation, la révolution autour du Soleil et les variations d'orbite. Donc là, on s'attend à des choses relativement périodiques. Mais il y a aussi d'autres sources de variabilité interne, donc comme la lithosphère, les calottes de glace, l'océan profond, qui vont correspondre à des échelles de temps différentes. Donc suivant la question posée, on va avoir un modèle qui va prédire des températures ou des variables climatiques qui sera plus ou moins focalisé sur telle ou telle composante. Donc le contenu d'un modèle de climat dépend de l'échelle de temps concernée. Alors la deuxième question qu'on peut se poser, ce qu'on appelle climat, ça se situe où précisément? Donc ça, il n'y a pas franchement d'accord sur la question. La météo, ça, c'est clair, c'est l'échelle du jour, quelques jours, quelques semaines éventuellement. Le climat, si on en croit la définition, c'est plutôt au-delà des dizaines d'années. Cette définition donnée par les géographes. Et entre les deux, il y a un peu un flou artistique. Est-ce que les variations d'une saison sur l'autre ou d'une année sur l'autre, est-ce que c'est des changements climatiques ou est-ce que c'est plus de la météo, mais c'est pas encore du climat, quoi. Donc il y a un petit problème de vocabulaire sur la question et ça simplifie pas le discours. Sur le diagramme de droite, c'est la même chose en fait, mais c'est le vrai aspect, les vraies données. Alors là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est que, bon, je ne vais pas trop détailler ça, mais on retrouve donc là le pic annuel, donc ça effectivement on le mesure, il n'y a pas de problème, ça existe. On retrouve ici un pic qui correspond aux fréquences de Milankovitch. Entre les deux, il y a quand même un continuum de variabilité, ce que les gens appellent du bruit. Enfin, ce qu'on peut assimiler à du bruit, c'est peut-être pas du bruit, mais en tout cas, il n'y a pas de périodicité bien identifiée. Il y en a peut-être, mais petite amplitude. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la pente est relativement faible pour des échelles de temps inférieures à 100 ans. Ça peut s'interpréter comme un système relativement peu prédictible à des échelles inférieures à 100 ans. Et la pente est plus importante à des échelles de temps supérieures à 100 ans. Donc ça aussi, on peut l'interpréter, à tort ou à raison, hein, mais comme un système qui serait peut-être plus prédictible à des échelles de temps plus grandes. Donc, s'il fallait donner une définition physique du mot climat, qui serait en gros la partie la plus prédictible du système, on aurait envie de mettre la barre, non pas à 30 ans, mais plutôt autour du siècle, donc des échelles de temps en dessous du siècle, qui sont plus difficiles à prédire, intrinsèquement, des échelles de temps au-dessus du siècle, qui sont peut-être plus faciles à prédire, sauf qu'on n'a pas d'observation. Très précis. Et l'autre partie du problème. Donc voilà, bon, ça c'est un peu ce que j'ai raconté, hein. Différentes composantes, différentes échelles de temps et différents types d'observations. Donc à l'échelle de la décennie, on a des satellites. À l'échelle du millier d'années ou de la centaine de milliers d'années, on a forcément des informations beaucoup plus indirectes sur le climat. Alors, deuxième mot qui peut poser problème, c'est le mot modélisation. Parce que ça, c'est un peu fourre-tout aussi, ça recouvre en fait des réalités très très différentes. Bon, d'abord, ça s'appuie sur des observations, bon, qui elles-mêmes reflètent plus ou moins bien la réalité. Hein. Et il y a deux mouvements dans la modélisation, il y a deux grands types de modèles, ou deux phases successives. C'est d'une part essayer de faire une interprétation de ces observations, d'en faire une synthèse, de faire une interprétation un peu théorique, d'essayer de trouver des mécanismes derrière ces observations. Donc ça va passer par des modèles relativement simples. Puis d'autre part, on va essayer de simuler le système en essayant de, cette fois de rassembler tout ce qu'on connaît sur la mécanique du système pour voir si ça correspond à la réalité. Donc ça, les physiciens, souvent, ils utilisent deux mots très différents pour désigner la modélisation et la simulation. Quand on a un problème de physique, soit on fait un modèle, le modèle, c'est l'équation extrêmement simple qui est censée décrire le phénomène, et la simulation, c'est sa réalisation sur un très gros ordinateur pour essayer de reproduire au plus près ce que vous voulez. Les climatologues, ils ont un peu tendance à confondre les deux mots. Ce qui aussi, je pense, crée de la confusion sur l'activité de modélisation. En fait, les deux sont évidemment liés. On a besoin des deux pour avancer, c'est un aller-retour entre ces deux pôles. Mais c'est quand même bien de voir qu'il y a plusieurs démarches simultanées qui sont en cours dans l'activité de modélisation. Donc ça, ça implique non pas un seul type de modèle, mais effectivement une hiérarchie de modèles. Bon, le contenu va être différent suivant les échelles de temps. Et suivant qu'on va essayer de simuler, qu'on va essayer plutôt de comprendre un processus à l'intérieur. Et puis le contenu va aussi, pour des raisons purement techniques, va forcément être plus léger si on a besoin de faire des simulations plus longues. Pour donner quelques exemples qu'a déjà donné Anne-Sophie, avec un modèle, ce qui se fait de mieux, on va dire, pour prédire le climat du 21e siècle, typiquement, pour simuler un siècle ou quelques siècles, il va falloir des mois et des mois de calcul. Donc on ne va pas pouvoir aller beaucoup au-delà de quelques siècles de simulation. Donc on ne va pas pouvoir s'intéresser, par exemple, au cycle glaciaire-interglaciaire avec ce type de modèle. C'est tout simplement complètement hors de portée. Ça n'a pas de sens de lancer un calcul et puis de revenir 50 ans après voir si ça marche. Ça n'a absolument aucun sens. Donc on utilise des modèles beaucoup plus simples, beaucoup dégradés en quelque sorte, avec une physique, on va dire, plus approximative, avec des approximations plus grossières, mais qui vont permettre de faire des calculs plus longs. Et, à l'extrême, on va pouvoir utiliser des modèles avec 2-3 équations pour essayer de reproduire qualitativement... Ah oui, ça marche bien. Pour reproduire qualitativement certaines caractéristiques des changements climatiques. Voilà. Donc ça, c'était un peu l'introduction générale. Maintenant, je vais vous parler très rapidement de cycle glaciaire-interglaciaire parce que ça a déjà été fait. Donc, je vais juste ressortir un ou deux points. Donc, il y a des variations de CO2 dans l'atmosphère associées au cycle glaciaire-interglaciaire. Ces variations sont en fait très très parallèles, très très semblables aux variations de température au-dessus de l'Antarctique. On aimerait bien trouver un lien étroit entre les températures au-dessus de l'Antarctique et les variations de CO2 atmosphérique. Alors ce qui est intéressant, c'est de remarquer que dans l'histoire des théories des âges glaciaires interglaciaires, en fait, il y a toujours eu deux théories. On est passé, depuis le 19e siècle, la théorie dominante, c'est tantôt l'une, tantôt l'autre. Il y a un mouvement de va-et-vient, tous les 30 ans on change à peu près. Donc la théorie astronomique, bon, elle a à peu près 30 ans. Il est intéressant, il est important de s'intéresser à ce nouveau CO2, on va dire. Et depuis le début, depuis le 19e siècle, donc là il manque Adhémar, 1848, la première théorie astronomique. Et puis, quelques années plus tard, il y a eu des gens qui ont proposé que s'il y a des âges glaciaires, c'est simplement parce que le CO2 était plus bas dans l'atmosphère. Et donc, il n'y a pas besoin de s'intéresser à l'astronomie, aux astres, aux influences extérieures ou à l'astrologie. Donc, il fallait trouver une solution sur Terre aux problèmes terrestres. Donc, il y a toujours eu ces deux théories et... qui est intéressant, c'est que depuis une dizaine d'années, hein, il y a les cyclicités glaciaires-interglaciaires au programme. C'est assez récent. Et je pense que l'accent a été fortement mis là-dessus. Bon. Je pense que... Enfin, c'est marrant parce que les étudiants qui après nous reviennent à l'université nous disent « Mais les cycles glaciaires-interglaciaires, on connaît, c'est Milankovitch. » Mais en fait, non, c'est pas si simple que ça, quoi. En fait, on sait pas, hein. Il faut dire les choses comme elles sont, on sait pas comment ça marche. Et c'est sans doute un mélange des deux. Donc c'est un peu le danger de faire la science et l'enseignement en même temps, parce qu'on peut se tromper, puis revenir en arrière. Ouais. Alors, quelques arguments quand même pour dire que c'est important. Alors c'est sans doute important pour les déglaciations, pour les sorties d'air glaciaire, d'où la pertinence de la question tout à l'heure. C'est sans doute ça qui pose problème dans la théorie de Milankovitch. C'est pas tellement de faire des cycles à 23 000 ans, mais c'est de faire des grandes transitions tous les 100 000 ans. Et si on regarde un peu plus près la dernière transition climatique, donc là il y a beaucoup de courbes, je vous demande juste de regarder celles qui sont indiquées par la flèche rouge, donc en rouge la deuxième, puis celle indiquée par la flèche bleue, donc la deuxième en partant du bas. Donc le niveau marin remonte depuis l'ère glaciaire, donc environ moins 120 mètres jusqu'au niveau actuel. Le CO2, lui, va varier d'environ 180 ppm dans l'atmosphère jusqu'à environ 260 au début de l'Holocène. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le CO2 va commencer sa remontée entre 18 000 ans et 14-15 000 ans. Avant le présent, il aura fait la moitié de sa remontée vers des niveaux interglaciaires. Et pendant ce temps-là, le niveau de la mer, il n'a quasiment pas bougé. Donc s'il faut trouver une cause ou une conséquence, a priori, on a plutôt envie de dire que le CO2 a un rôle dans la fonte des calottes. Donc en tout cas, pour les déglaciations, il y a sans doute un rôle important du CO2. Autrement, enfin une autre façon de dire les choses aussi, c'est que si on essaye de faire tourner un modèle de climat au dernier maximum glaciaire sans prendre en compte l'effet du CO2, il manque en gros la moitié du signal. Donc, si on essaye de faire des modèles simples du climat sans l'aider tous les 100 000 ans par quelque chose, sans mettre du CO2 dans le modèle, on n'y arrive pas. Voilà. Il y a vraiment beaucoup d'arguments pour dire qu'il faut aussi des variations de CO2 pour expliquer les cycles glaciaires-interglaciaires. Ça ne met pas en cause Milankovitch, hein, il y a l'hyperglacité de Milankovitch et tout ça, mais l'insolation ne suffit pas à expliquer les cycles. Voilà, donc ça, ça a été un peu expliqué par Anne-Sophie, donc je ne vais pas trop insister là-dessus. Alors, l'idée, c'est que effectivement, si on stratifie l'océan profond, hein, ça peut aider. Voilà, donc, les équations, les résultats. Ah oui, ce qui est quand même intéressant aussi, par rapport à la situation actuelle, bah, c'est de dire maintenant qu'on a. On est optimiste, on va dire si on a compris comment ça marche. Bon, ça n'a pas été publié dans Nature ou Science, donc c'est sans doute faux, hein. Faut pas prendre ça pour argent comptant. Mais bon, il y a des choses qui marchent quand même pas trop mal. Donc on peut extrapoler sur le futur. Et ce qui est intéressant, c'est que on va aussi toucher vers les grandes échelles de temps du système carbone. Parce qu'en fait, tout ce carbone qu'on a pris dans le sous-sol, sous forme fossile, il y a une partie, certes, qui va être piégée dans l'océan, mais ce qui est dans l'océan va toujours échanger avec ce qui est dans l'atmosphère. C'est comme si vous prenez... si vous imaginez le système atmosphère-océan et que vous rajoutez du carbone d'un autre réservoir, ben à la fin, il y en aura quand même plus dans l'océan, plus l'atmosphère. Donc ce carbone-là, il ne va pas disparaître tout de suite. Il faudra attendre l'érosion des continents pour véritablement rééquilibrer le système. Et ça, ça prend des centaines de milliers d'années. Donc la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, c'est un problème a plusieurs étages, on va dire. Et en tout cas, il va en rester dans l'atmosphère, même après des centaines de milliers d'années. Donc si on s'intéresse à faire des cycles glaciaires dans le futur, donc ça c'est le passé, c'est ce que Sophie vous a montré tout à l'heure. Et dans le futur, suivant les hypothèses, potentiellement il n'y a plus de cycle glaciaire-interglaciaire pendant plusieurs centaines de milliers d'années, parce que le CO2 ne sera pas complètement éliminé. Donc voilà, je pense c'est intéressant de le dire quand même, parce qu'on est, dans une situation de type transition géologique. Hein. Il y a des choses qui vont changer, qui ne seront pas pareilles après et maintenant. C'est pas juste un problème ponctuel, ça a aussi des implications à très long terme. Voilà. Donc je vais plutôt me focaliser sur un deuxième point qui intéresse l'océan profond et qui est la variabilité du climat qui est observée notamment en période glaciaire. Donc ça, c'est la courbe de la composition isotopique de la glace mesuré au Groenland sur le dernier cycle climatique, donc sur les derniers 100 000 ans. Ça, c'est des choses en fait qui ont été mesurées depuis les années 70. Et puis pendant en gros une vingtaine d'années, les glaciologues ont dit on trouve des choses bizarres là, s'il y a des variations rapides, on ne comprend pas, est-ce que c'est du climat, est-ce que c'est pas du climat. Ils n'ont pas réussi, on va dire, à convaincre complètement la communauté des paléoclimatologues. C'est seulement dans les années 90, quand on a trouvé grosso modo la même chose dans l'océan, qu'on a dit, finalement, c'est peut-être vrai. Finalement, il y a peut-être des variations rapides du climat en période glaciaire. Alors, rapide, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces transitions-là, du froid vers le chaud en particulier, se font à des échelles de temps, on va dire, entre quelques années et quelques dizaines d'années. Donc il y a certains indicateurs atmosphériques qui changent d'une année sur l'autre. Si on en croit les isotopes, le changement isotopique, lui, s'effectue en une cinquantaine d'années. En tout cas, c'est clairement à l'échelle d'une vie humaine. On va passer d'un climat type glaciaire à un climat type interglaciaire, avec un changement de température moyenne au-dessus du Groenland, là on est au Groenland, qui est de l'ordre de entre 10 voire 15 degrés pour les transitions les plus brutales. Donc ça a été une très très grosse surprise. Hein. Dans les années 90, parce que on s'attendait à ce que les paléoclimatologues qui regardent loin dans le passé s'intéressent aux variations lentes du climat. Et donc les paléoclimatologues convaincus qu'ils s'intéressaient aux variations lentes échantillonnaient leur série pour un qui est bilan, ça suffisait largement. Mais en fait, il y a des variations rapides dans le passé. Donc ça change un petit peu complètement la philosophie qu'on peut avoir du système climatique. C'est un peu l'apparition de la notion de seuil dans le système. J'aime rapprocher ça du 19e siècle, il y a les géologues qui étaient catastrophistes, enfin, qui disaient l'évolution géologique c'est une succession de déluges, de catastrophes. Puis au XXe siècle, les géologues ont dit non, tout ça se passe très très lentement, il faut des millions d'années pour bouger les continents, tout ça. C'est un petit peu la même chose qui se passe au niveau du climat, c'est-à-dire il y a 10 ans seulement, enfin 10-20 ans, l'océan c'était un gros réservoir de chaleur, ça ne bougeait pas, ça allait tamponner toutes les variations de CO2, de température, etc. Et en fait, on s'aperçoit que pas du tout, il est actif, il peut basculer d'un mode de fonctionnement à un autre, et ça induit des variations très rapides. Donc il y a vraiment la notion de seuil, de surprise climatique qui est apparue avec ça. Donc des variations de température moyenne de quelques dizaines d'années, d'une dizaine de degrés en quelques années ou quelques dizaines d'années, c'est difficile à expliquer. Même aujourd'hui, même 10 ans après, on essaye, mais on n'y arrive pas. La seule théorie qui semble à peu près raisonnable, c'est de faire intervenir des changements dans la circulation océanique. Je pense que vous avez tous un peu entendu parler de ça, donc je ne vais pas non plus rentrer trop dans les détails. Bon, l'idée de base, c'est que l'océan Atlantique Nord peut basculer entre deux états. Ça va dépendre des apports des bilans d'eau douce ou haute latitude. Alors, bah en fait, quand on a un système bistable comme ça, ça peut être soit d'un côté, soit de l'autre. On ne peut pas être au milieu parce que c'est instable, donc dès qu'on bouge un tout petit peu, ça bascule soit d'un côté, soit de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va changer un paramètre du modèle, donc quand on change lentement le paramètre du modèle, ici représenté par la flèche en bleu, on va changer lentement le paramètre, enfin la réponse du modèle, qui est la position de la petite boule rouge. Mais l'intérêt d'avoir un seuil, c'est que au bout d'un certain moment, ça bascule brutalement de l'autre côté. Donc voilà, on a le paramètre qui varie lentement, et puis il y a un seuil, bascule. Après, on ne bascule plus, après on repart sur l'évolution lente du système. Puis dans l'autre sens, on va pouvoir rebasculer aussi, mais en fait, pas forcément au même endroit. Donc il y a ce qu'on appelle un phénomène d'hystérésis. C'est-à-dire le seuil pour passer de droite à gauche, ou de gauche à droite, ce n'est pas forcément le même. Donc ça signe l'existence d'équilibres multiples dans le système. Donc pour une valeur, par exemple, de cette position du ressort, on va avoir deux solutions possibles. Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on trouve finalement assez souvent dans le système climatique. Donc il y a des seuils dans le système climatique. Alors pour l'océan, on peut faire un modèle vraiment extrêmement simple. Qui est représenté ici, que je vais détailler rapidement, mais très rapidement. On va prendre deux boîtes, une boîte chaude, une boîte froide, avec température T1 pour la boîte froide, T2 pour la boîte chaude, T salinité S1 et S2. Pour représenter les flux évaporation-précipitation à la surface, on va introduire des flux de sel qui sont représentés ici par sigma, donc ce qui est évaporé dans une boîte précipite dans l'autre. Et puis entre ces deux boîtes qui représentent l'océan, on va avoir une circulation océanique représentée par une petite flèche M ici. Et cette circulation, on va dire, elle est proportionnelle à la différence de densité. Donc plus la boîte, plus la différence de densité est grande, plus ça va tourner. Ça, c'est une hypothèse assez simple et somme toute assez raisonnable. Alors il y a une différence absolument essentielle entre la salinité et la température. C'est ça qui génère en fait des phénomènes non triviaux, intéressants. C'est en fait les échanges d'énergie à la surface de l'océan sont fonction de la température. C'est-à-dire si vous avez une flaque d'eau chaude dans l'océan Arctique, ben cette eau chaude va se refroidir très rapidement parce qu'elle va échanger sa chaleur avec l'atmosphère, elle va rayonner vers l'espace, etc. Donc une flaque d'eau chaude en océan Arctique, c'est assez improbable. Autrement dit, les échanges de chaleur dépendent de la température. Par contre, les échanges d'eau douce à la surface de l'océan ne dépendent pas de la salinité. Si vous avez une flaque d'eau salée, toujours dans l'océan Arctique, ben, la salinité va rester là. Elle va pas, c'est pas parce qu'il y a de l'eau salée qu'il va se mettre à pleuvoir. C'est deux choses qui sont décorrélées. Inversement, ce n'est pas parce qu'il y a une flaque d'eau douce dans les tropiques que l'évaporation va augmenter. Donc l'eau douce, elle, les échanges d'eau à la surface ne sont pas des fonctions de la salinité. Donc là, sur la température, on va avoir une rétroaction négative très très forte. Bon, c'est, en gros, c'est le second principe de la thermodynamique, hein, quand on transporte de la chaleur du froid vers le chaud. Mais là, pour la salinité, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, le phénomène qui va modifier la salinité, c'est précipitation, évaporation à la surface, et ça ne dépend pas de la salinité. C'est deux choses découplées. Et ça, ça va donc générer, dans les modèles simples comme dans les modèles plus compliqués, une dynamique intéressante. Donc, par exemple, si je prends... bon, je ne vais pas toucher à cet objet. Si je prends le bilan de sel qui va rentrer dans la boîte 2, la boîte chaude, eh bien, on va avoir du sel qui vient... Là, on va avoir ce qui correspond à l'évaporation, donc à l'apport de sel par l'atmosphère. C'est très physique, vous me direz, mais bon, c'est plus simple comme ça. Ici, on va aussi avoir du sel qui va rentrer, qui va aller de la boîte 1 vers la boîte 2, à travers cette circulation, donc MS1. Et puis, il y a ce qui va sortir de la boîte 2, c'est MS2. Voilà. Le bilan de sel de la boîte 2, c'est ce qui arrive par l'atmosphère, ce qui vient de la boîte 1, donc tout ça c'est ce qui rentre, et puis ce qui sort. Bon, il faut une valeur absolue parce que ça tourne dans un sens ou dans l'autre, c'est toujours ça vient de la boîte 1 pour aller dans la boîte 2, et inversement. Bon, après on développe, hein, M c'est proportionnel à la différence de température et de salinité, et on va faire l'hypothèse que les températures sont fixées, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une flaque d'eau chaude en Arctique, c'est assez improbable, ça va se refroidir tout de suite. Par contre, ce qui va être fixé, c'est pas les salinités, auquel cas tout serait à peu près fixé, ce qui va être fixé, c'est le flux de sel. Donc on va avoir des conditions fixes pour les températures, des conditions... Alors, ceux qui font de l'analyse numérique, ils appellent ça des conditions de Neumann pour des équations d'irrégularité partielle, c'est-à-dire on fixe la condition à la surface. Et, par contre, pour les flux de sel, on va avoir des conditions en termes de flux, ce qui est complètement différent. Donc, l'inconnu, ça va être le sel, le paramètre, ça va être le flux de sel. Bon. On écrit l'équation, cette équation-là, avec M qui est égal au gradient de température et de salinité. On réarrange un petit peu. On trouve quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire une équation du second degré à une inconnue. Alors, une équation du second degré à une inconnue et avec une valeur absolue, ça génère des solutions multiples. Après, on peut analyser un petit peu. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que il faut réfléchir.
Il y a beaucoup de naturalistes.
Donc, on obtient une courbe comme ça, une parabole, second degré, hein, une valeur absolue, donc on repart dans le sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, alors là, on voit très bien qu'il y a soit une solution pour que x facteur de valeur absolue de la moyenne x soit égal à f. Si on cherche x, là, on trouve une solution. Si f, le paramètre, est égal à cette valeur-là, on trouve aussi une solution. Si si F est égal à 7 valeurs 1, on trouve trois solutions, hein, qui sont les trois équilibres que je vous ai montrés au début, hein, deux stables et puis un instable au milieu. Et donc, quand, si on essaye d'interpréter ça en termes de flux d'eau douce, en fait, le flux d'eau douce, c'était l'axe, c'était F, donc l'axe des ordonnées. C'est plus facile de le mettre en paramètre, donc on a renversé l'axe. Et puis en fait, ce terme valeur absolue de 1 moins x, en fait, c'est la circulation océanique. C'est l'intensité de la circulation océanique. Bon, ça se voit assez facilement. Donc en fait, l'intensité de la circulation océanique, en fonction du flux d'eau douce, c'est ça. C'est une branche de parabole qui rebouche le chemin quelque part. Et donc, on voit très bien ici que quand on augmente un petit peu trop le flux d'eau douce, on va bloquer la circulation. Et à l'inverse, dans l'autre sens, quand on diminue le flux d'eau douce, alors le seuil n'est pas le même, mais pour rebasculer de l'autre côté, on va aussi avoir une transition brutale dans l'autre sens. Voilà. Donc, tout ça pour vous illustrer que un modèle, ça peut être extrêmement simple. Ça permet de comprendre des choses. Quand on écrit des milliers d'équations, qu'on appuie sur l'ordinateur, des fois le modèle est presque aussi compliqué que le monde réel. Donc ça ne permet pas forcément de comprendre ce qui se passe. Donc c'est aussi intéressant de faire des choses un peu plus simples pour comprendre le phénomène. En fait. Voilà. Donc en fait, ce qui est assez amusant, c'est qu'on peut faire des choses dans des modèles bidimensionnels ou dans des modèles tridimensionnels d'océan, beaucoup plus complexes. Et on retrouve toujours cette branche de parabole ici, avec un seuil vers le bas. Après, on est bloqué à des valeurs très faibles. Et on a un autre seuil dans l'autre sens, qui n'est pas au même endroit. Donc, ce qu'on a trouvé avec deux boîtes, en fait, c'est assez générique. Ça marche aussi avec des milliers de boîtes. Et donc, dans des modèles d'océan beaucoup plus complexes. Alors, il y a une petite complication ici, c'est qu'en fait, il y a potentiellement plusieurs branches en haut. Alors, d'où elles viennent ces différentes branches en haut? En fait, il n'y a pas que l'advection à grande échelle, donc il n'y a pas que ce mélange horizontal qui correspond au transport des eaux chaudes vers les régions polaires. Il y a aussi le mélange sur la verticale, qui lui aussi peut avoir un comportement multistable, et donc avec des équilibres multiples et des transitions. Donc il y a ces deux phénomènes dans les modèles qui sont l'un comme l'autre, hein, pour des raisons assez similaires d'ailleurs, capables de générer des équilibres multiples et donc des seuils. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ce que je vous ai raconté, mais pas beaucoup plus. Voilà. Et donc voilà, c'est ce que je dis ici. Donc ces résultats-là du modèle très simple, ça s'applique aussi sur la verticale, moyennant des petites modifications mineures. Donc avec cet ensemble d'équilibres multiples et d'instabilité dans le système, on espère pouvoir expliquer les enregistrements paléoclimatiques qu'on observe par exemple au Groenland. Alors ça, c'est assez satisfaisant, on va dire, pour les événements de Heinrich. Alors je ne sais pas si... Donc, en fait, donc, ce que je vous ai montré, c'est la courbe du Groenland. Dans les sédiments marins, ce qu'on observe aussi, c'est des lits de sédiments détritiques, enfin, de cailloux, au fond de l'océan Atlantique, entre 40 et 55 degrés nord, à peu près, dans l'Atlantique. Et de trouver plein de cailloux au fond de l'océan, c'est un peu surprenant, surtout quand c'est des cailloux millimétriques. Ça n'a pas pu être transporté par le vent, ça n'a pas pu être transporté par les courants marins. La seule explication, c'est que ça a été transporté par des icebergs. Donc ce qu'on appelle ces événements de Heinrich, là, c'est des débâcles massives d'icebergs qui envahissent tout l'océan Atlantique Nord. On en retrouve à l'embouchure de la Méditerranée. Donc il y avait des icebergs qui rentraient en Méditerranée pendant cette période. Et donc, qui dit iceberg dit apport massif d'eau douce, parce que la glace elle va fondre le long de son chemin. Et effectivement, on s'aperçoit que ces débâcles d'iceberg surviennent pendant les périodes froides. Alors, s'ils étaient survenus pendant les périodes chaudes, on aurait dit, c'est simple, il fait chaud, il y a des icebergs qui fondent. Alors ça survient pendant les périodes froides, donc on dit, c'est simple, il y a des icebergs qui arrivent, ça vient de l'eau douce, donc ça bloque l'océan. Donc c'est, on trouve toujours une explication. Donc, ces apports massifs d'icebergs, là, l'interprétation simple, classique, c'est de dire, ça injecte de l'eau douce dans l'océan Atlantique Nord, donc ça bloque la circulation, donc ça refroidit le climat au-dessus du Grand Monde. Et puis quand on arrête ces apports massifs d'icebergs, et ben, ça redémarre de façon très brutale. Et ça, ça va permettre d'expliquer les variations de température. Donc, en tout cas, pour ces événements qu'on appelle événements de Heinrich, ça tient la route. L'histoire qu'on raconte, elle est plausible. Et puis, il y a aussi le fait que ça correspond un petit peu à ce qu'on observe aussi, c'est-à-dire quand on va arrêter la circulation de l'océan profond, on appelle souvent circulation thermohaline, parce que cette circulation de l'océan profond, elle est forcée, comme je l'expliquais, par les gradients de température et de salinité, ça va transporter moins de chaleur vers l'hémisphère nord, mais si on en transporte moins vers l'hémisphère nord, ça veut dire qu'on en a plus dans l'hémisphère sud. Et c'est un peu ce qu'on observe dans les données. Donc là, on a, alors le temps est cette fois de gauche à droite, donc on a ces événements rapides au Groenland, et on a aussi des choses en Antarctique, avec les carottes de glace de l'Antarctique, on s'aperçoit effectivement que quand c'est bloqué dans le nord, on a ces événements de Heinrich là, qui fait froid, eh bien ça se réchauffe dans le sud. Ça, c'est quelque chose d'assez systématique. Donc dire que c'est l'océan qui est impliqué, eh bien, en fait, ça correspond assez bien à ce scénario-là. On transporte plus de chaleur vers le nord, du coup, on accumule de la chaleur dans le sud. Et donc, c'est ce que les modèles peuvent aussi réussir à reproduire. Bon. Donc, ça marche, on est content. Mais il y a quand même des petits problèmes particuliers. Ces coups de chaud et ces coups de froid qu'on observe au Groenland, il y en a beaucoup plus que des éléments de Heinrich. Des éléments de Heinrich, il y en a en gros, ça dépend comment on compte, mais entre 5 et 10 sur le dernier cycle climatique. Et dans ces roches-gœurs, il y en a 25. Donc ça marche une fois sur 2, une fois sur 4. En plus, ces coups de chaud assez brutaux là, il y en a tout au long de la période glaciaire, que les calottes de glace soient toutes petites ou soient énormes. Donc ça c'est un petit peu surprenant, on va avoir des débats d'icebergs dans tous les cas. Et donc la plupart dans ces roches-gœurs ne sont pas associés à des débats, enfin, pas clairement en tout cas associés à des débats de glace. Donc il y a peut-être quand même quelque chose qu'on n'a pas compris. En plus il y a des gens qui trouvent des périodicités là-dedans, autour de 1500 ans. Qu'on retrouve même peut-être pendant la période interglaciaire. Ça, c'est beaucoup moins net, c'est beaucoup plus discuté. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui se passent plus ou moins périodiques. Donc il y a des personnes qui invoquent la variabilité solaire, par exemple, si c'est pas dans la Terre. On a toujours tendance à invoquer l'extraterrestre. Et puis, il ne faut pas perdre de vue que les modèles, hein, qui soient très très simples, comme celui que je vous ai montré, ou qui soient beaucoup plus complexes, en fait, ils sont assez loin de la réalité physique. Et là, je vais juste dire deux mots très très rapidement là-dessus. C'est que la circulation, en fait, thermohaline, ça reste un sujet de recherche pour les océanographes physiciens. Et en fait, on ne sait pas forcément très très bien comment ça marche. Et en particulier, il y a un truc très important. C'est que si on chauffe un fluide d'un côté, on le refroidit de l'autre à la même pression, si les choses sont simples, ce qui n'est pas le cas, mais bon, il y a des théorèmes de thermodynamique qui nous disent que ça ne peut pas tourner. En gros, si on chauffe l'atmosphère, c'est simple, on chauffe par en dessous, quand vous chauffez une casserole, ça se met à tourner. Si vous chauffez par en dessus, c'est le cas de l'océan, si on chauffe par au-dessus, ben, ça, normalement, ça ne devrait pas faire tourner le système. C'est pas si simple que ça. En fait, ce qui permet de faire fonctionner le système, c'est le mélange vertical. Donc là, on va rajouter du mélange, de la turbulence, et c'est ça qui va permettre d'approfondir en gros cette couche d'eau chaude ici vers le bas. Et ça, ça va véritablement générer des gradients horizontaux qui vont permettre à l'océan de se mélanger. Et en fait, dans le modèle de Stommel, il y avait déjà ce mélange parce que lui, il disait, prenez deux boîtes bien mélangées. Donc l'énergie, il faut l'introduire avec des petits agitateurs. Dans le modèle en boîte aussi. Parce que si ce n'est pas deux boîtes bien mélangées, ben, ça ne marche pas non plus. Et si vous faites ce genre d'expérience avec deux bouteilles et puis des tuyaux, ben, ça ne marche pas. Il faut mélanger. Donc il faut ajouter de l'énergie. Et cette énergie-là, elle vient par les vents, par les marées, puis aussi il y a un petit flux géothermique en dessous qui n'est pas forcément négligeable. Donc tout ça, ça va permettre de mélanger le système. Mais, bon, je vais conclure là-dessus, mais, c'est pas représenté dans les modèles, qu'ils soient simples ou qu'ils soient compliqués. Donc en fait, il manque un petit peu le moteur du système. Présente pas forcément très très bien dans les modèles. Voilà, pour conclure, les modèles prédisent plutôt une diminution de la circulation profonde dans le futur. Bon, si on reprend notre petit modèle simple, ben, c'est un peu normal parce qu'on indique que M était proportionnel à la différence de densité. Donc si on réchauffe le climat, en fait la hausse des températures attendues elle est plus haute aux hautes latitudes. Il y a tout un tas de raisons qui font que ça va être amplifié haute latitude, bon, la neige, la glace de mer, tout ça. Et donc le gradient de température, lui, si ça se réchauffe un peu dans les tropiques et beaucoup aux hautes latitudes, le gradient de température va diminuer. Donc a priori, ça va tourner moins vite. Hein, si on regarde le cycle hydrologique, alors ça c'est peut-être un petit peu moins clair, mais bon, les modèles nous disent aussi peut-être qu'il va pleuvoir plus dans les régions froides et puis moins dans les régions tropicales. Donc là aussi, ça va avoir tendance à cette fois, augmenter le gradient de salinité, donc plus d'évaporation, plus de précipitation. Et donc, ces deux effets, en fait, contribuent à ralentir la circulation océanique. Donc, c'est finalement quelque chose d'assez attendu. Voilà, il y a quelques observations dans ce sens qui sont parfois contradictoires. Donc, voilà, je vais m'arrêter là.